Lorsque l'inspecteur José Pedro Negri est revenu au 8 rue Luis Marin, 27 ans après les événements étranges qui s'y sont déroulés, j'ai pu voir, lorsqu'il a poussé la porte de l'appartement, son visage se transformer. Il ressentait à nouveau ce qu'il avait vécu pendant cette nuit du 19 novembre 1992. Une nuit émaillée d'expériences paranormales qu'il n'a jamais pu oublier.
Iker Jiménez, journaliste, animateur et producteur.
Éteignez les lumières. Fermez votre porte. Décrochez le téléphone. Nuit blanche, couleur 3.
On fait tourner le pointeur sur la planche un tour par joueur. Ensuite, il faut dire « C'est un ami sincère que nous nous présentons. »«
C'est un ami sincère que nous nous présentons. » »«
Esprit de l'au-delà, en ces lieux nous t'invoquons. »«
Esprit de l'au-delà, en ces lieux nous t'invoquons. » »«
Esprit, es-tu là avec nous ?»
Je dois détruire le Ouija.
La porte. Il faut réparer ce qui a été mal fait.
Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Nuit Blanche, un podcast pour ceux et celles qui préfèrent frémir plutôt que dormir. À la lueur d'une simple bougie, nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui en cercle autour d'une planche Ouija, composée de chiffres et de lettres pour contacter et converser avec les morts.
Est-ce que vous avez déjà ressenti, après la mort d'une personne que vous aimiez, qu'il y a moyen d'entrer en contact avec elle ?
Elle n'est plus là, tu te fais des illusions.
La planche est le moyen d'entrer en contact.
Quelques secondes de silence, une invitation, une question, et voici déjà le verre retourné, sur lesquels des doigts sont délicatement posés, glissés de lettres en chiffres, pour former un mot ou une phrase. C'est une expérience toujours impressionnante, parfois effrayante. Mais surtout, une expérience fortement déconseillée par de nombreux spécialistes en démonologie et en occultisme. Voici ce que dit la médium Suzy Smith dans son autobiographie « Confessions of a Psychic » sortie en 1971.
Il faut dire aux gens de se tenir éloignés des planches Ouija. J'ai connu de nombreux et terribles problèmes avec cette pratique. Si j'avais été prévenue des risques, j'aurais été bien plus prudente.
Une mise en garde, parmi tant d'autres, qui aurait peut-être pu sauver une vie. Celle d'une jeune étudiante espagnole, Estefania Gutiérrez Lázaro. C'est son histoire vraie que nous allons vous raconter. À la narration, Anne Flamand, Michael Marquet, réalisation, Franck Pourpri.
Esprit de l'au-delà, nous t'invoquons.
Estefania Gutiérrez Lázaro a grandi dans le district de Vallecas, un secteur à l'histoire particulière des faubourgs de Madrid. Jusqu'en 1950, c'était une commune indépendante. Et puis le développement urbain de la capitale l'a absorbée, géographiquement et administrativement. L'arrondissement conserve pourtant une ambiance particulière. Historiquement, c'est un quartier ouvrier et un repère de dissidents. Aujourd'hui, les familles à bas revenus et les immigrés composent l'essentiel de sa population. Certains de ces immeubles abandonnés abritent des squats d'anarchistes, des refuges pour toxicos et quelques bordels pas tout à fait clandestins. Entre une ruine et un terrain vague, il n'est pas rare de trouver une aire de jeu aménagée sommairement où les enfants du coin viennent piailler gaiement. Dans le quartier de Palomera Sureste, qui marque la limite est de Vallecas, les petites maisons basses et les taudis d'autrefois ont peu à peu laissé leur place à de grands immeubles d'habitation. Sur une dizaine d'étages, derrière des façades de briques ocre trouées de quelques balcons, s'entassent des familles aux revenus modestes, dans un confort moderne, mais tout relatif. Au début des années 90, c'est dans l'un de ces immeubles, au numéro 8 de la rue Luis Marin, que vit la famille Gutiérrez Lázaro. Máximo Gutiérrez Palomares, 44 ans, et son épouse, Concepción Lázaro de la Iglesia, sont déjà les heureux parents de 5 enfants. 3 filles, Querubina, Marianella et Estefania, et deux garçons, Ricardo et Maximiliano. Un dernier petit garçon, José Luis, est attendu dans quelques mois dans cette famille déjà nombreuse. La famille Gutiérrez-Lázaro est en deuil. Concepción vient de perdre son père, décédé il y a quelques jours après avoir souffert de démence sénile. Même s'il n'est jamais facile d'enterrer son géniteur, ce n'est pas tellement la disparition de cet homme qui affecte la mère de famille. Leur lien s'était fortement distendu ces dernières années. Des querelles autour d'histoires d'argent avaient fini par pourrir leur relation. Quelques jours avant sa mort, le vieil homme colérique a maudit sa fille. Il lui a juré qu'il rendrait la vie de toute sa famille impossible depuis l'au-delà.
Pourquoi vous ne voulez pas laisser cette famille tranquille ?
Cette promesse turlupine Estefania. À 16 ans, la troisième des enfants Gutiérrez-Lázaro est fascinée par les sciences occultes et l'ésotérisme. Et bien que ça ne l'empêche pas de dormir, la menace de son grand-père résonne dans l'esprit de la jeune fille.
Je suis venu ici pour voir ma famille, mais ils ne sont plus là désormais.
C'est parce que vous êtes mort.
Où sont-ils ?
Je l'ignore. Si je le savais, je pourrais peut-être vous aider.
Je n'ai pas besoin de votre aide.
Alors pourquoi ne pas tourner la page ?
Je ne crois pas à ce concept.
Et pourquoi ? Pourquoi refusez-vous d'aller au paradis ?
En dehors de son attirance pour le côté obscur, la jeune madrilène est une adolescente des plus ordinaires, avec ses petits soucis, ses espoirs et ses secrets. Elle a quelques petits problèmes de santé. Comme ses parents, Estefania est en surpoids. Sur l'unique photo d'elle visible sur Internet, on devine un cou épais et quelques replis graisseux sous son menton. De grosses joues encadrent son visage aux traits harmonieux et aux lèvres pleines. Ses cheveux bruns retombent sur son front en une frange épaisse et sous ses sourcils fournis, les yeux sombres d'Estefania regardent au loin d'un air décidé. L'ensemble pourrait presque paraître austère si son visage n'était pas éclairé par l'esquisse d'un sourire.
Je t'ai entendu. C'est moi la plus grande, je suis arrivée en premier.
T'as mis le lait à chauffer ?
Non.
Pour ça, t'es pas la plus grande.
Elle n'est pas l'aînée de la fratrie, mais c'est pourtant elle qui a le plus le sens des responsabilités et qui sert de mère de substitution à ses frères et sœurs quand Concepción ne peut pas s'occuper d'eux. En dehors de la maison, la vie de la jeune fille est rythmée par le lycée. Elle entretient de bonnes relations avec ses camarades de classe et pendant les récréations, elle retrouve ses amis avec qui elle aime bavarder de tout et de rien.
Allez, c'est l'heure. Viens, il y a école aujourd'hui.
Certaines d'entre elles partagent l'intérêt d'Estefania pour les sciences occultes et le spiritisme. Et les discussions évoluent alors, se concentrant sur la meilleure façon d'invoquer ce qui se trouve de l'autre côté. En fin de journée, une fois que la cloche a sonné, l'étudiante traîne un peu dans la cour avant de rentrer chez elle, afin de passer un peu de temps en compagnie de son petit ami, Demetrio Camacho. La relation entre les deux ados n'a rien de secret, et Demetrio est le bienvenu chez les Gutiérrez-Lázaro. Mais Estefania préfère s'attarder aux abords de l'école désertée. Ce n'est quand même pas la même chose de pouvoir plonger dans les yeux de son amoureux, loin du regard protecteur de ses parents.
Et tout le monde n'a pas la chance de vivre cette parfaite symbiose amoureuse.
En ce matin de mars 1990, Estefania quitte l'appartement familial de bonne heure pour se rendre au lycée.
La voix est libre.
La jeune étudiante fait toujours le trajet à pied car le Colegio Publico Aragon ne se trouve qu'à quelques minutes à pied de chez elle sur l'avenue Rafael Alberti de Madrid. La journée s'annonce donc ordinaire et studieuse, mais seulement en apparence. Estefania s'ennuie rapidement pendant les cours. Elle préfère la compagnie de ses amis à celle des profs et des livres.
Attends un peu. Viens, on suit les autres.
Non, attends. Les filles sur la terrasse. Rosa, éteins le projecteur.
D'accord.
Profitant d'un décalage dans son emploi du temps scolaire, dû à l'absence d'un professeur, l'adolescente va rejoindre dans les toilettes de son école deux amis. On discute, on rigole, on parle des garçons, mais pas que. L'adolescente a glissé le matin même dans son sac, avant de partir, une planche Ouija qu'elle sort discrètement en prenant soin de bien inspecter les alentours afin d'être sûre que personne d'autre n'écoute la conversation.
Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Les
faut attendre Diana.
Celle qui a redoublé?
Ouais, je lui ai dit ce qu'on allait faire et elle veut venir.
Pourquoi t'as fait ça? On avait dit qu'on le ferait juste toi et moi.
Ben finalement, on le fait toi et moi plus Diana. Tu vas voir, elle est trop sympa. Et puis, tu te souviens de Manolo? Il avait une crête sur la tête. Il s'est tué dans un accident de moto. C'était son petit copain.
Pourquoi tu lui en as parlé?
Je suis désolée, ça m'a échappé. De toute façon, tout le monde sait que ça marche mieux quand on a un nombre impair.
Une planche Ouija est un rectangle de bois ou de carton sur lequel est imprimé ou gravé des lettres et des chiffres. Il peut aussi y avoir le mot bonjour, au revoir, oui et non. D'ailleurs, le mot oui est deux fois dans son nom. Une fois en français et une fois en allemand et en néerlandais avec les deux lettres J et A, ce qui nous donne Ouija.
Si un fantôme est ici, alors regarde dans le pointeur et tu le verras. C'est comme un œil qui peut voir dans l'au-delà. Ô esprit de l'au-delà, si tu hantes cette maison, envoie-nous un signe.
On place sur la planche un accessoire, comme par exemple un verre renversé ou un morceau de bois en forme de cœur appelé goutte, sur lequel les participants vont poser un doigt sans trop appuyer, juste poser. Ensuite, il suffit d'invoquer le monde invisible pour entrer en contact avec un ou plusieurs esprits qui auraient alors la faculté de faire glisser le verre ou tout autre objet d'une lettre à l'autre pour répondre à une question ou en dire plus sur leur identité avec un mot ou une phrase.
C'est ton ami sincère que nous nous présentons. Esprit, es-tu là? Nous t'invoquons. Oui, esprit, es-tu là? Oh mon Dieu! Es-tu ici dans cette pièce? Pose tes questions. Comment c'est de l'autre côté?
Les premières planches Ouija ont été créées dans la seconde partie du 19e siècle, c'est-à-dire à une époque où le spiritualisme connaît un très grand succès aux États-Unis et en Europe. Effrayantes pour les uns, divertissantes pour les autres, elles sont fabriquées en grande série dès 1890 par la Kennard Novelty Company, en prenant comme modèle un prototype réalisé par deux entrepreneurs américains, l'avocat et inventeur Elijah Bond et Charles Kennard, qui n'est autre que le fondateur de la Kennard Novelty Company. La planche Ouija est alors considérée comme un simple jeu de société. C'est seulement bien plus tard, pendant la Première Guerre mondiale, qu'elle sera l'outil de prédilection pour faire parler les morts. Elle doit son succès dans les milieux spirites à l'américaine Pearl Curran, qui affirmait dès 1913 être en communication via une planche Ouija avec l'esprit de Patience Worth, qui aurait vécu en Angleterre au XVIIe siècle. Aujourd'hui, on trouve très facilement de nombreuses planches Ouija à vendre dans des boutiques ésotériques, des librairies et sur Internet. Elle a connu un regain d'intérêt auprès du grand public avec de nombreux films fantastiques comme L'Exorciste, Ouija ou encore Paranormal Activity. Depuis sa création, une question demeure, âprement débattue par les sceptiques et les convaincus. Est-ce que le verre où la goutte se déplace grâce à une puissance invisible, une force surnaturelle induite par un esprit, ou est-ce un simple phénomène idéomoteur, c'est-à-dire l'exécution de mouvements musculaires dont les participants n'ont pas conscience.
Froid. Ok, voilà comment ça marche. Comme on a tous les mains sur le pointeur, on ne sait pas qu'il bouge. Et on réagit dès qu'on sent un petit mouvement en l'amplifiant de manière inconsciente.
Ok.
Ce jeu est conçu pour que chaque joueur se fasse peur tout seul.
Oui.
Il n'y a rien de l'autre côté, tu peux me croire.
Tu peux arrêter, c'est l'esprit.
Là, je commence à flipper.
Arrête, ça n'existe pas, les esprits.
Ok. Esprit, prouve-nous que tu es là. Vas-y, fais-nous signe.
Il n'y a pas d'esprit.
On ne sait pas exactement d'où provenait la planche Ouija qu'avait dans son sac la jeune Estefania. Était-ce un cadeau, un achat dans une boutique ésotérique de la ville? Était-elle en bois ou en matière cartonnée? Mais ce qui est sûr, c'est que l'étudiante y est particulièrement attachée. Dans un coin de la pièce, les trois filles s'installent autour de la planche. N'ayant pas de goutte en bois, elles vont utiliser un verre qu'elles retournent.
Hé, attendez-moi!
Après la mise en place, vient le temps de la concentration, puis du silence. Il est enfin temps d'invoquer des entités de l'au-delà. Un moment toujours impressionnant pour les participants, entre l'excitation de voir le verre se déplacer comme par magie et la peur de se dire qu'il y a peut-être tout autour de nous un monde invisible, un monde peut-être manipulateur, voire dangereux, qui peut, sur simple demande, entrer en contact avec celui des vivants.
Vous l'avez déjà fait avant ?
Ouais, oui, dans mon village. Mais tu m'as dit que toi aussi, non ?
Ouais, je l'ai fait, mais c'était avec des bouts de papier découpés, tu vois. Jamais avec une planche de Ouija comme ça, officielle.
Il paraît que tu peux voir comment tu vas mourir. Tu ne demandes jamais. Bon, après, ils sont morts. Ils peuvent forcément répondre à toutes les questions non plus, mais...
De nombreux médiums, expérienceurs, démonologues ou encore religieux mettent régulièrement en garde ceux et celles qui souhaitent s'amuser avec une planche Ouija. Ce n'est pas un jeu anodin, mais une porte ouverte sur un autre monde que l'on connaît pas ou peu. C'est pourquoi il y a toujours un protocole à scrupuleusement respecter pour éviter de se mettre en danger. Comme le rappelle dans ses pages le livre « Les dangers du Ouija board », le jeu qui pousse à la folie meurtrière.
Les règles. Ne jamais y jouer seul. Ne jamais y jouer dans un cimetière. Toujours dire au revoir. Un tour de pointeur par joueur. C'est parti.
Des règles qu'une jeune adolescente espagnole de 16 ans ne semble pas connaître. Les trois amis posent un doigt sur le verre retourné, ferment les yeux, font le vide dans leur tête.
Il y a écrit qu'il faut poser son index sur le verre. Fermez les yeux.
Pourquoi ?
Pour rentrer en contact, c'est plus rapide.
Estefania prend la parole et demande à haute voix si un esprit est là et s'il veut bien communiquer avec la petite assemblée.
Esprit, es-tu là ?
Elles attendent la réponse d'un esprit en particulier, celui d'un ancien petit ami de l'une d'entre elles, décédé dans un accident de moto.
C'est pas moi, je le jure.
Avant même que le verre ne se déplace sur la planche, la porte des toilettes s'ouvre et une professeure fait irruption dans la pièce. C'est Dolores Molina qui interrompt brutalement la séance. Sur un ton réprobateur, elle demande au groupe de quitter les lieux. Au moment où elle se dirige vers la planche Ouija pour s'en emparer et la déchirer, le verre posé dessus se remplit d'une fumée noirâtre, puis explose en mille morceaux. L'étrange brume libérée se dirige vers la jeune Estefania, puis disparaît au niveau de ses narines, comme si elle avait entièrement inhalé cette émanation surnaturelle, car il n'y avait ni cigarette ni bougie à proximité. Les trois amies sortent rapidement des toilettes, un peu paniquées. Elles viennent de faire le plein d'émotions pour la journée.
La récréation est finie, jeune fille.
Ce jour de mars 1990 marque le début de la fin pour Estefania. À partir de ce jour, son comportement change et la jeune femme va se révéler de plus en plus perturbée. C'est d'abord son sommeil qui est bouleversé, avec des insomnies à répétition. Et quand elle parvient enfin à fermer l'œil, ses nuits sont peuplées de cauchemars. Elle voit des silhouettes sombres rôder autour d'elle. Bientôt, Estefania n'a même plus besoin d'être endormie pour apercevoir ces ombres qui la terrifient. Elle raconte à ses parents et à ses frères et sœurs que les ténèbres la suivent partout dans l'appartement. Elles sont au pied de son lit, dans les coins, au bout du couloir. Elles l'entourent et murmurent son nom. Elles lui commandent de les suivre. Curieusement, les manifestations semblent plus fortes dans une pièce bien précise, la salle de bain qui jouxte la chambre de l'adolescente. Au fil des semaines, Estefania paraît de plus en plus lointaine. Selon sa mère, elle passe de longs moments, parfois jusqu'à 20 minutes, à fixer le vide dans une sorte de transe. Elle ne réagit à aucun stimulus, se contentant de rire nerveusement lorsque quelqu'un essaye d'entrer en contact avec elle.
Alors tu dois les protéger.
Interrogée sur ce qui lui arrive, la jeune fille explique qu'elle passe ses moments en compagnie des ombres. Elle se voit alors dans un long couloir, dont le sol est recouvert d'un épais brouillard, et elle entend des voix sinistres qui l'appellent.
Aidez-moi.
Estefania devient extrêmement sensible et même irascible. Elle s'emporte facilement et ses nerfs sont constamment sur le point de lâcher.
Tes sœurs sont encore très petites et elles ont beaucoup d'imagination. Tu ne peux pas leur mettre ce genre d'idée dans la tête. Après, elles n'arrivent plus à dormir.
Qu'est-ce que t'en sais, toi, si elles arrivent à dormir? T'es jamais à la maison, tu peux pas savoir ce qui se passe.
Qu'est-ce qui s'est passé, alors?
Il veut s'en prendre à nous.
Mais qui?
Je sais pas qui c'est. C'est moi qui l'ai appelé avec le Ouija.
Tu as joué au Ouija avec tes petites sœurs?
Non, pas avec mes sœurs.
Le reste de la famille est aussi témoin de phénomènes inexpliqués. Des portes qui se bloquent, des appareils électriques qui se mettent en route tout seuls. Un jour, Estefania s'installe dans la salle de bain contiguë à sa chambre. La jeune fille s'apprête à accomplir sa corvée hebdomadaire de repassage. Elle voit alors apparaître une silhouette sombre qui met le fer en route avant de disparaître à nouveau. Effrayée, elle appelle sa mère.
Maman ! Maman !
Concepcion la rejoint et vérifie l'appareil. Effectivement, il est allumé, mais pas très chaud. Soudain, la porte de la salle de bain se referme sur les deux femmes. Impossible de l'ouvrir. Appelé à la rescousse, Maximo, le père, essaie de toutes ses forces d'aider sa femme et sa fille à sortir. En vain. Quelque chose maintient la porte résolument fermée. Maximo s'apprête à la défoncer d'un coup de pied. Il prend son élan. Et là, toute la famille voit la porte s'ouvrir d'elle-même. Tout en douceur. Plus de peur que de mal. Mais à partir de cet épisode, cette salle de bain va devenir une sorte d'épicentre d'activité paranormale.
Non. Non, tu n'es pas seule. Quelqu'un a répondu à ton appel. Et maintenant, il ne te quittera plus. Ne bouge pas.
Les mois passent. Les visions d'Estefania sont de plus en plus violentes. Ces crises de colère se produisent de plus en plus souvent. La jeune femme est comme possédée. Son entourage rapporte qu'elle émet des sons gutturaux, comme des grognements, et elle s'exprime dans une langue inconnue. Marianella, qui partage la chambre d'Estefania, se réveille une nuit et voit une chose qu'elle ne peut pas croire. Sa sœur est en train de léviter à quelques centimètres au-dessus de son lit. La relation de l'adolescente avec sa famille est de plus en plus tendue. En proie à ses démons, Estefania s'en prend physiquement à ses frères et sœurs et même à ses parents. En plus des hallucinations et des accès de colère, elle doit désormais aussi faire face à des crises de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes pendant lesquelles elle perd connaissance. Ses parents sont extrêmement inquiets. De mars 1990 à juillet 1991, ils l'emmènent voir d'innombrables spécialistes dans pas moins de 4 centres médicaux. Peine perdue. Personne ne pose de diagnostic clair sur les troubles de la jeune fille. Personne ne leur propose un traitement efficace.
Quelque chose à l'intérieur d'elle. Est-ce que tu crois que les médecins vont pouvoir nous aider ?
Tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance.
L'un des médecins suggère qu'Estefania pourrait souffrir d'épilepsie, mais ce diagnostic laisse sa mère perplexe. En effet, elle-même souffre d'épilepsie depuis longtemps, mais ses symptômes ne ressemblent en rien à ce que vit sa fille.
Vous dites avoir observé un possible foyer épileptique dans le lobe temporal gauche. Ceci n'implique-t-il pas que ce que vous avez vu peut être autre chose qu'un foyer épileptique?
Exact, c'est également possible.
Début juillet 1991, Estefania n'est plus que l'ombre d'elle-même. La jeune fille rieuse a fait place à une personne tourmentée et épuisée, en proie à une perpétuelle bataille avec des forces invisibles. Toute la famille est à bout de nerfs. Après des semaines, des mois même, passées à subir des perturbations contre lesquelles elle est impuissante. Un soir, sans prévenir, Estefania se jette sur sa sœur, Marianella. Elle semble avoir perdu la raison. Elle lui saute à la gorge comme si elle était enragée. Marianella parvient à esquiver l'attaque. Estefania tombe sur le sol. Elle est prise de convulsions, ses yeux se révulsent et de l'écume sort de sa bouche. Elle perd connaissance. Quand elle se réveille un peu plus tard, la jeune femme est complètement désorientée. Elle ne se souvient d'absolument rien.
Pourquoi tu m'as étranglée? Je t'ai pas étranglée. Je t'ai protégée.
13 juillet 1991. Estefania est très affaiblie par ses crises incessantes. Ce matin-là, elle se confie à sa mère. Elle lui dit qu'elle est persuadée qu'elle partira avant elle et qu'elle ne souhaite pas que la famille du côté de son père, les Gutiérrez, assiste à ses funérailles. En fin de journée, la jeune fille va subir une attaque encore plus intense que celle des nuits précédentes. Elle est d'une telle intensité physique et psychologique qu'Estefania gît à présent inconsciente sur son lit. Sa mère à ses côtés est désespérée. Pendant une demi-heure, elle tient délicatement la tête de l'adolescente dans ses mains. Son visage n'est plus que souffrance et grimace. Elle expulse de la mousse par la bouche. Concepcion crie à voix haute plusieurs fois le nom de sa fille pour qu'elle se réveille. Mais rien n'y fait, et Estefania n'ouvre même plus les yeux. Elle n'est pas juste inconsciente, elle vient à l'instant même de tomber dans un profond coma.
Envoyez les médecins! Vous m'entendez? Envoyez les médecins tout de suite! Je répète, envoyez les médecins!
Une ambulance hurle dans la nuit madrilène. Il est un peu moins de 23 heures lorsqu'elle s'arrête devant l'immeuble numéro 8 de la rue Louis-Marine. Maximo Gutiérrez ouvre la porte. Toute cette agitation attise la curiosité des voisins qui regardent par la fenêtre ou par leur porte légèrement entrouverte. On emporte sur une civière la jeune fille à l'hôpital Gregorio Marañón. Aux urgences, on tente pendant une partie de la nuit de réanimer la patiente, mais il semble qu'il soit déjà trop tard.
Allez chercher quelqu'un en chirurgie. C'est bon? Change.
Engin. Chargé. Pas de changement.
200.
En charge. Chargé.
14 juillet 1991, 2 heures du matin, Estefania décède. Cause de la mort, insuffisance cardiaque et asphyxie causée par un œdème pulmonaire.
Inspecteur.
Oui, j'écoute.
La fille est morte.
Estefania Gutiérrez Lázaro venait tout juste d'avoir 18 ans. Toute la famille est effondrée par ce drame. Dans une pièce à côté, les médecins légistes Pedro Cabezas et Gregorio Arroyo Arrieta rédigent un premier rapport médical. Il est pour le moins succinct et plutôt étrange. Il se termine par ces quelques mots. Mort subite et suspecte.
Mais je ne peux pas affirmer de manière définitive que la cause de la mort a bien été naturelle.
Une conclusion qui ne fait qu'alimenter cette suspicion de cas de possession et renforcer l'idée que le grand-père a bel et bien jeté une malédiction sur la famille en ôtant à sa fille la chair de sa chair.
On en reparlera.
L'autopsie pratiquée dans la semaine n'apportera hélas rien de nouveau sur les circonstances de la mort d'Estefania.
À la fin, le bien triomphe du mal. Et mon expérience pourra montrer aux gens que les démons sont réels. Les gens affirment parfois que Dieu est mort. Mais comment pourront-ils penser cela si je leur montre le diable ?
Le décès d'Estefania a laissé un vide indescriptible dans la vie de la famille Gutiérrez Lázaro. Dans l'appartement de la rue Louis-Marine, c'est l'abattement. Concepcion et Maximo sont inconsolables. Un enfant ne devrait jamais partir avant ses parents. Marianella et Cherubina pleurent cette sœur qui était aussi leur meilleure amie. Les garçons se sentent comme abandonnés par celle qu'ils considéraient comme une seconde mère. Seul le petit José Luis ne comprend pas ce qu'il se passe. Il demande sans cesse après Estefania. Mais comment faire comprendre à un enfant d'à peine un an que sa grande sœur ne reviendra pas? Lentement, la famille essaye de panser ses plaies, de faire son deuil et de retrouver une apparente normalité. Il semble d'ailleurs que les phénomènes inexplicables se sont éteints en même temps qu'Estefania. Malheureusement, le calme sera de courte durée. Quelques semaines à peine après la disparition de l'adolescente, le poltergeist des Gutiérrez Lázaro se manifeste à nouveau. Doucement au début. On remarque à peine que quelques objets se sont discrètement déplacés. Par la suite, Les manifestations s'intensifient. Des portes s'ouvrent et se referment toutes seules. Et certains matins, le lit d'Estefania est défait. Le plus curieux, c'est que ces phénomènes surviennent toujours aux alentours de 23 heures, l'heure à laquelle Estefania est tombée dans le coma, si l'on en croit Concepción Lázaro.
Pourquoi tu tambourines à la porte ?
J'ai rien fait.
T'es ma boule.
Après la fille, c'est cette fois la mère de famille qui se retrouve au centre de toutes les perturbations. Certaines nuits, elle sent une main froide caresser son corps et retirer sa couverture. Elle entend parfois aussi une voix qui l'appelle.
Maman ! Maman !
Concepción a l'impression que cette voix provient de la salle de bain adjacente à la chambre d'Estefania, la même où sa fille disait que les phénomènes se manifestaient le plus intensément. Plusieurs des pseudo-experts qui rendront visite à la famille renforceront d'ailleurs cette croyance en un pouvoir surnaturel de la salle d'eau. Certains diront que cette pièce est une porte interdimensionnelle par laquelle des êtres désincarnés entrent dans ce monde. Les Gutiérrez Lázaro n'utiliseront plus la salle de bain qu'avec une extrême précaution et ils finiront même par en condamner l'accès et la transformer en réduit.
Et pourquoi de l'eau ?
C'est le conducteur universel. Ça lubrifie la transition d'une dimension à l'autre. Demandez-moi s'il y a de l'eau en enfer.
Il y a de l'eau en enfer ?
Asseyez-vous. Normalement, il suffit qu'une partie du corps soit en suspension. Mais...
Les semaines passent et les phénomènes s'intensifient. Crucifix retourné, porte qui s'ouvre et se ferme de plus en plus violemment et bruit de coups deviennent le lot quotidien de ce foyer madrilène. Même le chien semble détecter une présence indésirable. Il aboie et il grogne sans cesse en direction de quelque chose d'invisible situé au bout du couloir.
Je suis venu ici pour voir ma famille. Mais ils ne sont plus là désormais. Je pense que je devrais y aller maintenant.
Certains membres de la famille ont parfois l'impression d'entendre le rire mauvais d'une personne âgée. Concepción Lázaro se questionne sur l'origine de la malédiction qui semble frapper les siens. Et s'il s'agissait de son propre père ? Le vieil homme est décédé quelques mois à peine avant Estefania et il avait promis de rendre la vie de la famille impossible depuis l'au-delà.
On me donne et on me reprend. J'étais là lors de votre premier souffle. Vous n'avez pas demandé à m'avoir, mais je serai à vos côtés jusqu'à votre mort.
Quelle qu'elle soit, l'entité trouve chaque jour de nouvelles façons de manifester son hostilité. Les frères et sœurs d'Estefania se réveillent quand une force invisible fait claquer leurs bras contre un mur. Un soir, le caniche de la famille vole à travers le salon. Quelques semaines plus tard, c'est un verre qui fend les airs et manque de peu de frapper l'aîné des fils à la tête. Ricardo parvient à esquiver le projectile et il voit le récipient exploser sous ses yeux. Avec tout ce qu'ils ont enduré au fil des mois, c'est un miracle que personne n'ait été blessé. La peur envahit peu à peu la vie de toute la famille. Elle imprègne chaque pièce de l'appartement du 8 rue Luis Marin.
Prenez vos matelas et suivez-moi. On va dormir ensemble dans le salon.
Les Gutiérrez Lázaro ne dorment plus que tous ensemble dans le salon. Chaque soir, c'est un balai de matelas que l'on déplace dans la pièce à vivre et que l'on installe côte à côte, en rang serré, afin de se sentir moins seul et essayer de se protéger. La porte qui communique avec l'inquiétant couloir est verrouillée et on la condamne même en plaçant devant un imposant buffet. En vain, la force inconnue repousse le meuble et ouvre la porte du salon en grand. Terrifiée, isolée et impuissante, la famille décide de se tourner vers des parapsychologues et des voyants pour tenter de trouver une solution. Elle espère de l'aide. Elle ne va malheureusement obtenir que des charlatans.
On vient dans ces émissions pour informer le public, mais à chaque fois que j'ouvre la bouche, il y a toujours une espèce de scientifique qui débarque et qui veut démolir tout ce qu'on a fait.
Le pire d'entre eux est un dénommé Tristan Breaker. Au début des années 90, l'homme apparaît régulièrement dans diverses émissions de télévision et il jouit d'une petite célébrité. On le présente comme un enquêteur du paranormal et un chasseur de fantômes. C'est le premier expert auquel Concepción fait appel.
Est-ce que ça continue ?
Parce que si c'est le cas, votre meilleure chance de trouver de l'aide, c'est de donner votre version de l'histoire.
Le 14 octobre 1992, Tristan Brecker et son équipe débarquent au domicile de la famille Gutiérrez-Lazaro pour mener leur enquête. Ils ne sont pas venus seuls, les caméras de la chaîne Antena 3 sont également présentes afin de réaliser un reportage pour le journal télévisé.
En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parte forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña que contaba 14 años solía jugar con la ouija, práctica considerable. Era peligrosa para los expertos en parapsicología.
Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea, la ha poseído a mi hija. Mi hija ha sido poseída.
Au début du sujet, les plans de l'appartement se succèdent, tandis que la voix off décrit les phénomènes étranges dont sont victimes Concepción Lazaro et sa famille. La mère se dirige alors vers la fameuse salle de bain, désormais condamnée. Elle tourne la clé dans la serrure et ouvre la porte en grand pour les caméras. Plan serré sur le fatras qui s'entasse dans la baignoire, vraisemblablement des effets personnels de la regrettée Estefania. Dans la suite du reportage, Tristan Brecker tente de convaincre le téléspectateur de la présence d'un fantôme dans la maison. Il présente de supposées preuves, hautement discutables, parmi lesquelles une photographie avec une sorte de luminosité. Il produit aussi un enregistrement audio, réalisé sur place, où l'on peut entendre, si l'on a une imagination débordante et beaucoup de bonne volonté, les mots « Méfiez-vous du grand-père » en espagnol.
Opino que hay dos energías, una de la chica que al fin y al cabo pues la veo buena, pacífica, y otra energía pues que supuestamente podría ser del abuelo.
Le Ghostbuster affirme qu'il y a deux énergies présentes dans la maison. Une énergie bienveillante, qui serait celle d'Estefania, et une autre énergie négative, qui appartiendrait au grand-père. L'une des voyantes qui accompagne le pseudo-expert prétend alors entrer en transe et être possédée par l'énergie négative. La fin de la vidéo est une énorme blague. Alors que Tristan Brecker fait le show et hurle sur la soi-disant médium pour, dit-il, la faire sortir de sa léthargie, la complice a du mal à garder son sérieux et elle réprime à grand-peine un fou rire sous l'œil des caméras d'Antena 3.
Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero no se mudarán de casa porque, según los expertos en esoterismo, los fantasmas les seguirán allá donde vayan.
Te digo que vuelvas. La mano.
Me conoce.
¡Que vuelvas! ¡Vuelve! ¡Vuelve!
Quelques années plus tard, Tristan Brecker retrouve une partie de la famille sur le plateau d'une autre émission de télévision. Face à l'arnaqueur, Maximo, Concepción, Cherubina et Marianella ont du mal à garder leur calme. L'ambiance vire rapidement au règlement de compte et Concepción accuse ouvertement le larron d'avoir tenté de les escroquer.
Un momento.
Le estaba dando una tarde de lesión, por eso la rompió el brazo. A su señora.
Muy bien.
On apprend néanmoins grâce à cette émission deux choses intéressantes. D'une part, que Tristan Brecker a simulé la plupart des phénomènes étranges qu'il entendait démontrer. Et d'autre part, que le poltergeist a continué à sévir bien après son passage.
Écoutez, à chaque fois, c'est la même chose. C'est très facile de rester assis dans un fauteuil et de mettre à mal l'histoire de cette famille. Mais vous réagiriez différemment si vous aviez été sur place et si vous l'aviez vécu.
Tristan Brecker n'est pas le seul imposteur à qui la famille ait eu affaire. Par la suite, de nombreux autres filous, attirés par l'odeur de la détresse et de l'argent facile, vont proposer leur soi-disant service à Concepción Lazaro. Parmi eux, une voyante de Séville, qui lui propose d'éliminer ses problèmes, moyennant le paiement de 200 000 pesetas, soit environ 1 800 euros. D'après Alberto Romero, auteur d'un article très fouillé à propos du dossier Vallecas, l'intervention dans l'affaire de toutes ces personnes a probablement modifié la perception des événements par la famille. Si au début de l'affaire, la responsabilité des événements surnaturels est attribuée à l'esprit du grand-père, cette version se modifie peu à peu. La famille pense désormais que l'entité responsable de ses ennuis est un démon, dénommé Crapula, et qui se matérialise sous la forme d'un ectoplasme portant une cape rouge. Paradoxalement, la venue de Tristan Brecker aura quand même eu un effet positif. Grâce à la médiatisation de l'affaire, des parapsychologues et des enquêteurs un peu plus sérieux se sont intéressés au cas de la famille Gutiérrez-Lazaro. En particulier à partir de la fin de l'année 1992, après la fameuse visite de la police que nous vous raconterons dans quelques instants.
Ça compte beaucoup pour nous de vous avoir ici. Je dois reconnaître que j'étais un peu sceptique au départ. Alors je voulais vous dire merci d'avoir accepté de venir jusqu'ici.
Parmi eux, on trouve plusieurs figures célèbres de la parapsychologie espagnole. Le psychiatre Fernando Jiménez del Oso, le Heptagroup, dirigé par le père José María Pilón, ou encore des membres de la Société espagnole de parapsychologie, dirigé par le psychiatre Manuel Berrocal. Ce second groupe d'intervenants se distingue par deux aspects. Tout d'abord, aucun d'entre eux ne souhaite être rémunéré pour leur service.
Et après les petits tours de passe-passe de sa femme, qui sont sûrement très bien préparés, toutes les personnes présentes se mettent à croire aux fantômes eux aussi.
Ensuite, ils affichent clairement un plus grand degré de scepticisme et de rationalisme. C'est le cas de l'équipe dirigée par Manuel Berrocal. La chaîne Antena 13, qui a déjà filmé la mise en scène exécutée par Tristan Brecker, souhaite suivre l'affaire Vallecas de près et apporter de nouveaux éléments à ses téléspectateurs. Elle demande donc à cette autre équipe de pouvoir la suivre lors de sa visite de l'appartement des Gutiérrez-Lazaro, afin de pouvoir immortaliser ses recherches et surtout ses découvertes de potentielles preuves d'une activité paranormale. Sauf que, lors des deux visites qu'elle effectue sur place, l'équipe de Manuel Berrocal ne trouve absolument rien. Ça lui vaudra d'ailleurs une sérieuse réprimande de la part de la direction des programmes d'Antena 13.
Rien du tout. Bien comme je l'avais dit, ça ne marche pas toujours quand on en a envie. Mais peut-être que la caméra a appris quelque chose.
Ouais.
Attention.
À vrai dire, un bon nombre d'enquêteurs n'a jamais rien constaté d'étrange lors de ses visites chez les Gutiérrez-Lazaro. La plupart se sont donc appliqués à désamorcer la situation, à inciter la famille à ignorer les phénomènes inexpliqués et l'aider ainsi à reprendre une vie un peu plus normale. Mais revenons pour l'heure à l'année 1992. Au mois de novembre, les manifestations paranormales atteignent leur point culminant. Une nuit, les deux sœurs, Marianela et Cherubina, sont témoins d'une manifestation particulièrement effrayante dans leur chambre. Elles racontent. Nous avons toutes les deux entendu comme une plainte près de la porte. Soudain, nous avons remarqué quelque chose sur le sol. La lumière des lampadaires de la rue passait par la fenêtre, donc nous y voyons clairement. Nous avons vu qu'il y avait quelqu'un d'autre avec nous, et nous avons pensé que nous allions mourir. Une forme allongée rampait sur le sol. Elle avait la forme d'un homme, mais sa tête était toute noire, sans yeux, sans bouche, sans rien. La chose avançait, la poitrine collée au sol, glissant à travers la chambre. Nous avons commencé à crier et juste après, les poupées entassées contre le mur ont commencé à voler à l'autre bout de la pièce. Puis brusquement, la chambre s'est mise à résonner de coups et de cris. Quand ils ont ouvert la porte, nos parents nous ont trouvés recroquevillés chacune dans notre lit. Les poupées étaient dispersées sur le sol, comme si quelqu'un avait joué avec elles pendant des heures. Au fil des jours, la peur s'installe. À présent, c'est l'ensemble de la famille qui voit cette ombre ramper à travers la maison. Maximo Gutiérrez la remarque une nuit au pied de son lit. Il y a même des preuves physiques de sa présence. Partout où elle passe, elle laisse les surfaces qu'elle a touchées aussi froides que de la glace. Devant l'ampleur des phénomènes, Concepcion décide d'agir. Elle a besoin de prouver que ce qui tourmente sa famille n'est pas que le fruit de leur imagination et qu'ils ne sont pas tous en train de devenir fous. Elle met sur pied plusieurs expériences pour prouver la réalité des phénomènes. Un soir, elle répand de la farine dans le couloir de la maison. Le lendemain matin, il y a des empreintes dans la poudre, faites par une chaussure d'homme.
Au départ, je pensais qu'elle inventait, mais plus maintenant.
Une autre fois, à l'occasion d'une absence prolongée de l'ensemble de la famille, elle attache toutes les portes de leur logement avec des cordes. Quand ils reviennent, tous les fils sont cassés. Le 19 novembre 1992 marque un tournant dans l'affaire Vallecas. Toute la famille est à bout de nerfs, après des mois de phénomènes éprouvants et de nuits sans sommeil. C'est alors que Maximo et Concepcion aperçoivent une fois de plus l'ombre, la grande entité allongée et informe qui rampe dans le couloir. La famille effrayée se rassemble alors près de la porte d'entrée. Sortie de nulle part, une balle apparaît dans le couloir et rebondit en direction du petit groupe. Instinctivement, Maximo attrape la balle au vol et la lance à travers le couloir. Mais étonnamment, avant de heurter le moindre obstacle, la balle change à nouveau de direction et elle revient sur eux. La peur atteint son paroxysme. La famille n'en peut plus. Il lui faut de l'aide et il la lui faut maintenant. Tous ceux qu'ils ont appelés jusqu'à présent n'ont rien pu faire pour les aider. Aucun soi-disant expert n'a pu leur apporter de solution. Il est donc temps de se tourner vers quelqu'un d'autre. La main tremblante, Maximo Gutiérrez décroche le téléphone et il compose le numéro d'appel d'urgence.
Il est entre 2h et 3h du matin ce 19 novembre 1992 lorsque le standard de la police de Madrid reçoit un appel. Au bout du fil, un homme de 46 ans. Il dit s'appeler Monsieur Maximo Gutiérrez Palomares et demande de l'aide. Il a le souffle court. Ses explications sont confuses. Il y aurait une personne dans son appartement, peut-être un cambrioleur armé. Quoi qu'il en soit, l'état de panique de cet homme, l'étrangeté de son discours suffisent pour que l'agent de service demande d'envoyer une patrouille sur place. Rapidement, deux voitures se garent devant l'entrée numéro 8 de la rue Luis Marín. Des lumières bleues éclairent les grandes façades de briques ocre, des portières claquent, quatre policiers sortent des véhicules, dont l'inspecteur en chef, José Pedro Negri. L'homme a la calvitie naissante et de petite taille et porte de grandes lunettes. Il découvre, au pied de l'immeuble, dans le froid piquant d'une nuit de novembre, toute une famille en peignoir et en pyjama qui ne souhaite plus remonter dans son appartement. Le chef de famille tente une nouvelle fois d'expliquer ce qui s'est passé depuis la mort de sa fille. Des ombres dans le couloir, des voix venues d'outre-tombe qui se manifestent pendant la nuit, des crucifix qui se retournent tout seuls, sans oublier des marques de griffes dans les chambres des enfants, comme si une bête sauvage avait lacéré le mur. Si cette nuit de novembre est glaciale, l'attitude de José Pedro Negri l'est tout autant. Sceptique, il pense tout de suite que cette famille est la victime d'un canular. Mais il y a tellement de peur sur leur visage qu'il ne peut pas les laisser là sur le trottoir au beau milieu de la nuit. Surtout que l'on peut déjà apercevoir, derrière certaines fenêtres de la rue, des ombres curieuses assistant au spectacle.
Vous êtes toujours là ? Allô ?
Pour y mettre fin, l'inspecteur propose à la famille Lázaro Gutiérrez et son équipe de les accompagner dans leur appartement pour inspecter les lieux. Il ne le sait pas encore, mais pendant cette nuit du 19 novembre 1992, ses convictions les plus profondes vont être ébranlées par des phénomènes qui dépassent l'entendement. C'est lui qui passe la porte en premier. Son œil avisé remarque qu'il n'y a pas de marque d'effraction sur la porte d'entrée. Si l'on occulte la famille totalement effrayée, qui parle à voix basse dans les escaliers, tout est calme et silencieux aux 8 rues Luis Marín. Negri ordonne à deux policiers de rester avec la mère et les enfants au salon pendant qu'il inspecte l'appartement. Avec deux autres de ses collègues, il pénètre dans la chambre parentale quand tout à coup, il entend une déflagration, comme un bang en provenance du balcon. C'est un bruit sourd et puissant, comme si une pierre avait heurté le sol. Le policier se précipite dehors avec sa lampe de poche, mais ne trouve strictement rien. Cet événement rend les visiteurs de la famille légèrement nerveux. Pendant que l'inspection se poursuit, Negri entend tout à coup sa collègue rester au salon crier «
Attention!
Une porte d'une armoire en chêne vient brusquement de s'ouvrir, frôlant de près l'un des policiers. Lorsque l'inspecteur arrive dans la pièce, il découvre ses deux collègues pointant à bout de bras leurs armes en direction d'une armoire. La scène est complètement surréaliste et la tension palpable, surtout que la tribu Lázaro Gutiérrez, éprouvée par tous ces phénomènes inexplicables, est au bord de la crise de nerfs. Pendant qu'on tente de calmer tout le monde, la porte du placard va se rouvrir et se refermer à plusieurs reprises, sans que les policiers puissent trouver une explication rationnelle à cette observation. Negri pénètre ensuite dans la chambre d'Estefania. Il découvre un poster accroché au mur partiellement déchiqueté, avec trois griffures bien distinctes. L'endroit le plus effrayant est sans nul doute la salle de bain, censée être la pièce la plus hantée, à tel point que la famille l'a condamnée. Lorsqu'il pénètre dans le petit espace, il ressent un froid glacial et un inconfort oppressant qu'il ne pourra jamais oublier, même s'il est difficile de pouvoir, avec des mots, l'expliquer.
Mordu ?
C'est pas ta faute.
Quelqu'un a répondu à ton appel. Et maintenant, il ne te quittera plus.
Outre observation qui va laisser perplexes les policiers. Il y a une étrange boue de couleur cramoisie sur certains meubles. Une boue qui va apparaître soudainement sur la nappe de la petite table sur laquelle se trouve un téléphone. Deux policiers souhaitent s'isoler pendant quelques secondes avec leurs supérieurs. Ils expriment le souhait, si leur présence n'est pas nécessaire, de pouvoir retourner au véhicule, comme le confirmera plus tard Negri lui-même dans une interview accordée au journaliste Iker Jiménez en 2018. Negri accède à cette demande et reste avec seulement un policier à ses côtés. Il est 2h40 du matin lorsque l'inspecteur contacte le central pour dire qu'en effet, il se passe bien quelque chose d'étrange au 8 rue Louis Marine. Il décide d'entendre les différents membres de la famille afin de pouvoir rédiger un rapport.
Hé, petit bonhomme, viens là, tout va bien. Allez, viens avec moi, voilà.
Vous nous croyez, n'est-ce pas ?
Nous avons envie de vous aider.
Tout le monde s'est à présent réuni au salon. Les deux parents se relaient pour raconter aux autorités ce qui se passe dans leur appartement depuis la mort de leur fille en juillet de l'année passée. 8 jours plus tard, le 27 novembre 1992, l'inspecteur José Pedro Negri va produire un document de plusieurs pages pour les archives de la police et sa direction. Un document que l'on peut consulter aujourd'hui sur Internet. Voici les passages les plus intrigants de ce précieux document. Il est fait mention de plusieurs faits étranges. Je cite Negri. Il y a eu un grand bruit sur la terrasse. Après vérification, nous n'avons trouvé personne. Nous avons pu remarquer que sur la table où il y avait le téléphone, une tache brune est apparue sur la nappe. La consistance est comparable à celle de la boue. Les policiers, assis au salon en compagnie de la famille, ont pu observer tout à coup la porte d'une armoire s'ouvrir et se refermer toute seule. Enfin, il est noté qu'un poster dans la chambre de la jeune fille décédée présente trois griffures et qu'un crucifix en bois est retourné. Le Jésus a été décollé de la croix et se trouve sur le sol. Cette configuration n'avait pas été constatée lors de la première inspection de la pièce.
Il faut réparer ce qui a été mal fait.
Paco Plaza, le réalisateur du film d'horreur Véronica, qui s'inspire directement des événements survenus au 8 rue Louis Marine, explique. Pour la première fois de l'histoire de l'Espagne, un rapport de police révèle la présence d'éléments surnaturels inexpliqués lors d'une enquête. Les agents de police ont affirmé dans un document officiel avoir été témoins de phénomènes qui leur étaient inconnus. Ils affirment aussi que certains phénomènes étaient complètement inexplicables.
Mais dans notre domaine, il arrive que nous devions faire acte de foi pour croire ce que personne ne voudra croire.
Aidez-moi ! Il me laisse pas !
C'est donc ainsi que l'affaire Vallecas va prendre une soudaine ampleur nationale et alimenter de nombreuses questions et rumeurs qui deviendront le socle d'une histoire complexe où se mêlent les fantasmes des uns et les témoignages des autres.
Et pour le bien de votre fille, ne rendez pas la situation plus dure qu'elle ne l'est déjà, parce qu'une chose est sûre. Elle n'a pas pu monter ça toute seule.
Comment osez-vous ?
Si le rapport de l'inspecteur Negri marque un tournant en ce qui concerne la crédibilité de l'affaire Vallecas, il n'a aucun effet sur les manifestations bizarres qui se déroulent toujours au 8 rue Louis Marine.
Chérie !
Le 1er novembre 1993, le jour de la Toussaint, Concepción Lázaro est dans tous ses états. Une photographie d'Estefania a brûlé de manière très particulière. La mère de famille a trouvé le cadre par terre, la face reposant sur le sol. Elle le retourne et elle remarque alors que le papier photo est brûlé. Il s'est consumé à l'endroit où se trouvait le visage d'Estefania, mais ni le cadre, ni le verre, ni les objets alentours n'ont été endommagés.
Ils sont là. Tous les morts.
Cet incident affecte beaucoup Concepción, non seulement parce qu'il constitue une anomalie de plus dans une liste déjà beaucoup trop longue, mais aussi parce qu'elle était particulièrement attachée à cette photo. En 1996, les journalistes Iker Jiménez et Lorenzo Fernández Bueno visitent l'appartement, un état des lieux qui passe forcément par la fameuse salle de bain. Au moment où ils pénètrent dans la pièce, ils ressentent des vertiges et des sensations négatives.
Ça vient pas de là.
Plus étrange encore, les batteries de leur caméra, pourtant parfaitement chargées, se vident instantanément lors du passage dans certaines pièces.
Je crois que j'ai trouvé.
En 1996, toujours, le 9 novembre, des chercheurs visitent à leur tour la maison de Concepción et Maximo. L'équipe est composée de membres du groupe FEDIN, une association espagnole de recherche sur les phénomènes paranormaux, aujourd'hui dissoute.
Est-ce que tu captes quelque chose, chérie ?
Une chose affreuse s'est passée ici.
L'objectif initial de ces experts est de cerner l'origine du poltergeist.
Il y a quelque chose ici, j'en suis sûre.
Allez, claque la porte, déplace un objet.
Mais rapidement, leurs investigations se concentrent sur une seule personne, Concepción Lázaro. Le groupe réalise une évaluation psychologique, parapsychologique et graphologique de la mère de famille et ses conclusions sont sans appel. C'est elle qui est à l'origine des phénomènes qui perturbent sa famille.
Bien comme je l'avais dit, ça ne marche pas toujours quand on en a envie. Il y a peut-être que la caméra a pris quelque chose.
Ouais.
Attention.
Le portrait que le rapport du groupe FEDIN dresse de Concepción n'est pas flatteur. Elle est décrite comme une personne introvertie, névrosée, en mal d'attention, mégalomane, immature, agressive, émotionnellement déséquilibrée et possédant une imagination débordante. Le rapport attribue toutes ces caractéristiques à la situation de stress et d'anxiété intense dans laquelle elle s'est retrouvée plongée depuis ce jour maudit de mars 1990, mais il conclut néanmoins qu'on ne peut guère se fier à ces témoignages.
Vous pensez que je manipule ma fille ? Et la police alors ? Ils sont aussi dans le coup ? Oui, ça suffit !
Toujours d'après ce rapport, les manifestations auraient pour source un phénomène mystérieux appelé psychorragie. On appelle psychorragie la libération psychique d'une bioénergie accumulée dans l'organisme lors d'une situation intensément pénible et qui affecte les objets environnants. La véritable origine du poltergeist de Vallecas serait donc la psychorragie manifestée d'abord par Estefania elle-même, puis plus tard par sa mère Concepción. Quant au reste de la famille, ils vivraient les mêmes expériences par un phénomène de suggestion.
Regardez ce qu'elle m'a fait faire.
Il faut cependant souligner que les conclusions de cette étude ont été maintes fois critiquées. Tout d'abord parce que les tests se sont focalisés exclusivement sur Concepción, laissant de côté les autres membres de la famille. Ensuite, parce que la famille, et notamment Marianella, a fait valoir à plusieurs reprises que les méthodes elles-mêmes utilisées pour mener les tests, comme la graphologie, sont hautement discutables.
Tu vois, ça nous montre ce qu'on voit pas à l'œil nu. Plutôt sans sas, hein ?
Ouais, c'est dément. Regardez ce qu'elle m'a fait faire.
Peu à peu, les manifestations effrayantes et les phénomènes inexpliqués s'atténuent au 8 rue Louis Marine. La famille Gutiérrez Lázaro apprend à vivre avec son poltergeist et à ne plus se laisser terroriser. Ils utilisent même à nouveau la fameuse salle de bain contiguë à l'ancienne chambre d'Estefania. La famille finit même par déménager à la fin des années 90 et depuis, ni elle, ni les nouveaux locataires de leur ancien logis n'ont vécu quoi que ce soit d'inhabituel.
Tout à l'heure, j'ai vu l'entité diabolique qui hante votre maison et votre propriété. Je l'ai d'abord vue dès que j'ai franchi votre porte. Elle était accrochée à vous. Et puis je l'ai revue avec vos filles, quand on est entré dans votre salon. Alors peu importe où vous irez, cette entité malveillante s'est accrochée à votre famille et va se nourrir de vous.
L'affaire Vallecas va pourtant connaître un dernier rebondissement. Le 23 septembre 2018, le quotidien El Mundo publie une interview inédite des deux frères d'Estefania, Ricardo et Maximiliano, respectivement âgés de 16 et 10 ans au moment des faits. Dans cet entretien, mené par le journaliste David Cuevas, les deux frères se livrent à ce qui ressemble fort à des aveux. Ricardo n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, il n'y a tout simplement pas d'affaire. Si leur langue se délie, c'est que leur père, Maximo, est récemment décédé d'un cancer. Ils ne souhaitaient pas s'exprimer plus tôt par égard pour lui, mais désormais plus rien ne les retient. Les deux frères se disent motivés uniquement par le désir de laver l'image de leur sœur. Estefania était une jeune fille ordinaire et aimante, pas particulièrement friande de Ouija ni de sciences occultes. Ils ne supportent plus de la voir dépeinte comme un être possédé qui l'évitait et grognait comme un animal. Pour Ricardo et Maximiliano, de telles choses n'ont tout simplement jamais eu lieu. Contrairement à ce qu'a toujours dit Concepcion, il confirme qu'Estefania était bel et bien épileptique et qu'on lui administrait un traitement à base de carbamazépine. Sa mort est tragique, mais elle n'est pas mystérieuse.
Et elle se serait remise si elle avait continué son traitement. Traitée à temps, les troubles épileptiques psychotiques sont rarement fatales.
Pour les deux frères, il est inapproprié de parler de phénomènes paranormaux. Les manifestations étaient d'ordre psychologique. Leur mère était obsédée par le fait que quelque chose d'inexplicable se passait autour d'Estefania et elle a fini par influencer le reste de la famille. Il raconte encore comment les parapsychologues, comme Tristan Brecker, n'ont fait qu'empirer leur situation. Les événements, disent-ils, se sont finalement apaisés quand ils ont arrêté d'en parler, comme le recommandait le psychiatre Fernando Jiménez de Loso.
Envoyez les médecins! Vous m'entendez? Envoyez les médecins tout de suite! Je répète, envoyez les médecins!
Ricardo et Maximiliano reviennent aussi sur la fameuse visite de la police à leur domicile, le 19 novembre 1992.
Écoutez, madame, on ne peut rien faire pour vous.
On peut remplir un rapport d'intervention et confirmer ce qu'on a vu si quelqu'un nous le demande, mais c'est tout.
Un rapport? Oh, c'est magnifique. À chaque fois que j'ai un problème, il y a un nouveau document à remplir.
C'est vraiment incroyable.
Pour eux, tous les éléments soi-disant surnaturels consignés par l'inspecteur Negri ont en fait une explication rationnelle. Le crucifix renversé aurait été victime d'un courant d'air. Et quant à la mystérieuse boue brune apparue sur la table, il s'agirait en réalité de la bouillie pour bébé du petit dernier, José Luis. Les forces de l'ordre auraient elles aussi été victimes de phénomènes de suggestion, renforcés par quelques éléments de mise en scène. Ricardo fait alors une révélation choquante. Il avoue que c'est lui, l'auteur du grand bruit entendu ce soir-là sur l'un des balcons. Sur ordre de sa mère, il aurait jeté une pierre sur une armoire métallique, afin d'impressionner la police.
Écoute, il doit forcément y avoir une explication logique.
Monsieur, c'est pour ça que nous sommes là, d'accord ?
Concepcion se serait rendue coupable de manipulation. Elle aurait forcé ses enfants à mentir et à exagérer ce qui se passait dans la maison. C'est à elle que ses fils attribuent la responsabilité des événements liés à l'affaire Vallecas. Quant à leur père, Maximo, il se serait toujours montré sceptique, mais il aurait finalement été convaincu par son épouse.
La famille a contacté l'église pour avoir de l'aide.
Oui, mais honnêtement, nous sommes assez réticents à l'idée de nous impliquer. Vous n'aurez pas à intervenir. Si c'est un canular, vous plierez bagages et vous rentrerez. Mais si ce n'en est pas un...
Naturellement, ces révélations ont fait grand bruit et elles ont, semble-t-il, donné lieu à de très vifs échanges, notamment sur les réseaux sociaux. Entre ceux qui croient toujours à la dimension paranormale de l'affaire Vallecas et ceux qui crient à la supercherie. Pourtant, et malgré les éléments nouveaux qu'elle apporte, cette dernière interview de Ricardo et Maximiliano Gutiérrez Lazaro ne permet guère de tirer une conclusion définitive.
C'est toi qui l'as appelé.
Car le témoignage des deux frères comporte, lui aussi, de très nombreuses approximations et des incohérences.
Ce que nous vous proposons à présent, c'est de vous livrer nos impressions, nos ressentis, nos réflexions après avoir passé 3 semaines à étudier l'affaire Vallecas. En ce qui me concerne, j'aimerais tout d'abord insister sur le fait que le récit existe en plusieurs variantes. Ce qui n'est pas bon signe, cela rajoute du doute et de la complexité. Parfois, nous avons des histoires différentes parce que les témoins ont changé de récit au cours des années, parce qu'ils ne s'accordent pas sur la version des faits, ou alors parce que des personnes qui ne sont pas directement impliquées dans l'affaire souhaitent tout simplement lui donner un caractère encore plus saisissant et extraordinaire. Une partie qui prête vraiment à caution, par exemple, est celle de la séance de planche Ouija. On ne connaît pas exactement la date de cette séance, mais on peut la situer entre l'année 1990 et 1991. Autre point de controverse, même s'il paraît anecdotique, c'est le lieu de cette séance. Certains récits disent c'est dans une salle de cours vide, d'autres dans les toilettes de l'école, d'autres dans la cour de récréation. On ne peut pas non plus affirmer avec certitude que les filles ont cherché à entrer en contact avec un ami décédé dans un accident de moto. Cette version de l'histoire est contestée par Marianella, la sœur d'Estefania, qui aurait assisté à la séance. Dans une énième version du récit, il est mentionné que la professeure, Dolores Molina, qui surprend les jeunes filles en pleine séance de spiritisme, aurait le lendemain démissionné et ne serait plus jamais revenue au Collegio Pubblico Aragon. Là aussi, rien ne le prouve. Je vous propose à présent une version alternative, celle de Juan Chacon, un ancien camarade de classe d'Estefania qui affirme avoir participé à la séance de Ouija. Lors de l'émission Millennial Live, diffusée le 29 septembre 2018 sur la chaîne YouTube d'Iker Jiménez, Juan raconte que ce jour-là, il y avait lui, Marianella, la sœur d'Estefania, et Antonio, un jeune étudiant à qui appartenait la planche Ouija. Il ajoute qu'Estefania n'a pas participé directement à la séance, en tout cas pas au début. Comme elle était un peu nerveuse et mal à l'aise, elle s'est proposée pour garder la porte au cas où une personne arriverait. Petit détail intéressant, l'entité que va contacter le groupe d'amis dit s'appeler Véronica, d'où le nom du film. Ensuite, ses amis ont insisté pour qu'elle participe au jeu. Elle aurait alors posé quelques questions, dont une qui est la suivante. « Qui êtes-vous ? » Et l'esprit aurait répondu « Je suis ton grand-père ». En ce qui concerne la fin de la séance, là aussi les témoignages divergent. Selon certaines sources, tout s'est bien passé. Selon d'autres, le verre a bel et bien explosé. Et pour la suite du drame, c'est la même chose. Il y a plein de zones d'ombre, de contradictions, d'angles morts. À part des témoignages contradictoires, la seule chose qui nous reste de cette époque, ce sont des reportages télévisés sensationnalistes, à la limite du ridicule, et ce rapport de police qu'il faut considérer pour ce qu'il est, un simple rapport, une formalité administrative, mais en aucun cas une véritable enquête policière sur l'affaire Vallecas. J'ai l'impression que le nuage noir qui est sorti du verre pendant la séance de Ouija s'est répandu sur toute l'affaire Vallecas qui est plongée depuis une trentaine d'années dans une sorte d'obscurité qui lui confère une aura de mystère, mais en même temps presque un statut de légende urbaine. Surtout depuis que les deux frères d'Estefania, Ricardo et Maximiliano Gutiérrez, ont accordé au journal El Mundo en septembre 2018 cette interview dans laquelle ils démontent toute l'histoire. Je pense qu'il faut donc aborder ces révélations non pas comme la vérité, mais comme leur vérité. Alors, est-ce que l'affaire Vallecas n'est qu'une vaste fraude ? Difficile de le dire, en tout cas on pourrait facilement la rebaptiser la controverse Vallecas. Pour ma part, je laisse une porte ouverte sur l'inconnu, comme pour les autres histoires, une porte ouverte sur l'inexpliqué, mais il y a juste de quoi laisser passer un petit courant d'air. Pour vous faire en tout cas votre propre idée sur la question, car on pourrait encore en parler pendant des heures, n'hésitez pas à prendre comme base pour votre réflexion le très long dossier publié en ligne par Alberto Romero. Les références complètes, ce sera dans quelques minutes. Et toi, Anne, avant de parler des références, est-ce que l'affaire Vallecas t'a laissé dans la confusion, la perplexité, ou est-ce que tu es dans un état d'euphorie surnaturelle ?
Mika, moi je te dirais que toute cette histoire, elle m'a plutôt laissé dans la perplexité. D'abord, pendant tout le temps où j'ai fait des recherches sur l'affaire Vallecas, je dois te dire que je n'ai pas arrêté de faire des parallèles avec 2 autres affaires qu'on a déjà évoquées dans Nuit Blanche, le poltergeist d'Enfield et le cas d'Annelise Michel. Il y a de très nombreuses similitudes dans la description des tourments que subit Estefania Gutiérrez Lazaro avec ce qu'a vécu Annelise Michel. Comme elle, elle a vu de nombreux spécialistes qui lui ont été d'aucune aide, et comme elle, on l'a diagnostiquée épileptique. On lui a prescrit un traitement à base de carbamazépine qui ne semble malheureusement pas avoir été efficace du tout. On retrouve aussi de nombreux éléments qui rappellent l'affaire d'Enfield dans ce que vit la famille Gutiérrez-Lazaro après le décès d'Estefania. Comme par exemple les coups sur les murs, les objets qui se déplacent et les portes qui claquent. Mais apparemment, c'est la phénoménologie classique des manifestations d'un poltergeist. Il y a pourtant une différence fondamentale entre ces deux affaires et celle qui nous occupe aujourd'hui. L'affaire Vallecas repose exclusivement sur des témoignages. Aucun document ne vient étayer les déclarations de la famille. Il n'y a pas eu de relevé d'échantillons dans l'appartement, pas d'enregistrement audio ou vidéo des comportements bizarres attribués à Estefania, pas de rapport de médecin, alors qu'on nous dit quand même qu'elle en a vu beaucoup en quelques mois. Les seuls enregistrements audio disponibles, ce sont ce qu'on appelle des psychophonies, c'est-à-dire qu'on a disposé des magnétophones dans l'appartement vide des Gutiérrez-Lazaro, et on a écouté les bandes ensuite pour voir si ces appareils avaient capturé des voix. C'est un procédé utilisé couramment en parapsychologie. Dans le cas des psychophonies réalisées à la rue Louis-Marine, on a pu entendre principalement deux voix sur les bandes, un homme et une femme. Cependant, étant donné la personnalité de ceux qui ont réalisé ces enregistrements, notamment Tristan Brecker, eh bien il y a de grandes chances que ces enregistrements aient été fabriqués. Plus généralement, j'ai trouvé ça assez compliqué d'enquêter sur ce cas. Non seulement on a très peu d'éléments concrets sur lesquels se baser, mais en plus, la plupart des sources sont en espagnol, et même avec un bon outil de traduction, ça limite beaucoup le champ des investigations. Parmi tous les articles, les podcasts et les vidéos qui ont été réalisés autour de cette affaire, seule une petite pincée apporte des éléments tangibles. La plupart ne sont que des copier-coller d'articles antérieurs qui recrachent grosso modo toujours la même soupe. Se plonger dans l'affaire Vallecas, c'est lever le couvercle sur un gigantesque téléphone arabe. Au fil des années, les erreurs se sont accumulées dans les différentes versions et on ne sait plus très bien si Estefania a fait cette fameuse séance de Ouija en mars 1990 ou en mars 1991. Pareil pour son décès, certains avancent la date du 14 juillet 1991 et d'autres du 14 août de la même année. Pour cet épisode, on a retenu l'hypothèse la plus vraisemblable, à savoir que la séance de Ouija a eu lieu en mars 1990 et que le décès de la jeune femme a eu lieu en juillet de l'année suivante. Mais cette chronologie des événements soulève une autre question. On sait, par ailleurs, que le grand-père d'Estefania est décédé 5 mois avant sa petite-fille. Mais alors, dans ce cas, ça voudrait dire qu'il était encore vivant au moment où l'étudiante a fait cette fameuse séance de Ouija avec ses amis. Ça veut dire qu'il ne peut pas être à l'origine de la malédiction d'Estefania et de tout ce qui s'en est suivi. Bref, c'est vraiment difficile d'y voir clair. Il restait pourtant un point qui me chiffonnait et que je ne parvenais pas à chasser de mon esprit, la mort d'Estefania. Souvenez-vous, cette mort était qualifiée de soudaine et suspecte par les médecins qui l'ont examinée. Or, d'après Alberto Romero, auteur d'un article très fouillé à propos du dossier Vallecas, cette mort ne serait en réalité pas si suspecte que ça. Le terme « suspect » ferait référence, juridiquement et médicalement, à un décès qui, bien que potentiellement attribuable à des causes naturelles, comporte des éléments qui suscitent la suspicion. Et c'est évidemment le cas pour des morts subites chez des sujets très jeunes. Cependant, d'après l'un des auteurs de l'autopsie d'Estefania, le médecin légiste Gregorio Arroyo Arrieta, eh bien il n'y avait rien d'étrange dans la mort de la jeune femme. Estefania avait un degré important d'obésité qui aurait perturbé le bon fonctionnement de son système endocrinien et de son cœur. Son mauvais état physique aurait été aggravé par son épilepsie et la dernière crise qu'elle subit en juillet 1991 aurait simplement agi comme un catalyseur. En plus d'avoir provoqué sa mort, l'épilepsie de la jeune madrilène serait également responsable de ses visions et de ses crises de colère. Il semble que dans certains cas, les crises d'épilepsie impliquent des visions auditives et visuelles, ainsi que des explosions psychotiques. Dans cette affaire, j'aurais donc tendance à me ranger du côté des frères, Ricardo et Maximiliano, et à accorder le plus grand crédit aux déclarations qu'ils ont faites en 2018. Je peux tout à fait imaginer que leur mère, Concepción Lazaro, ait projeté ses propres peurs sur l'ensemble de la famille et qu'elle ait en quelque sorte créé et entretenu un climat surnaturel. Comme le souligne Manuel Carbalal, un écrivain et chercheur qui a suivi cette affaire de très près, il est beaucoup question dans cette affaire de perception. Quand on vit dans une maison où règne le surnaturel, chaque événement, même le plus insignifiant, peut être interprété à l'aune de cette conception. C'est ce qui explique que certains verront un esprit perturber le circuit électrique d'un logement, là où d'autres ne verront qu'une ampoule qui grésille. Comme le souligne le spécialiste de l'étrange, ce sont ces différences de perception qui expliquent qu'aujourd'hui, les frères et sœurs d'Estefania donnent de la même histoire des versions contradictoires. Si Ricardo et Maximiliano se sont exprimés dans El Mundo pour livrer un récit plus rationnel de l'affaire, Marianella vient, elle, de publier un livre dans lequel elle accrédite la thèse d'une origine surnaturelle des événements. Pour Manuel Carbalal, personne ne ment, c'est simplement que les membres de la famille ont vécu ces événements autrement, en fonction de leurs prédispositions.
Nuit blanche.
Si vous souhaitez découvrir des images, des textes, des films en lien avec l'affaire Vallecas, voici quelques références qui pourraient vous intéresser. Pour avoir une vue d'ensemble du drame vécu par la famille Gutiérrez-Lazaro dans les années 90, il y a le site periergueia.org. Periergueia signifie curiosité. L'auteur du site, Alberto Romero, biologiste et scientifique de l'université d'Alcalá, relate l'intégralité de l'affaire Vallecas et met en lumière les points incertains, les contradictions du récit et celles des déclarations des différents protagonistes. C'est très bien documenté, son dossier en deux parties est disponible en anglais et en espagnol. Dans la catégorie film à voir, Véronica, un long métrage d'épouvante sorti en 2017 et réalisé par Paco Plaza, qui, juste avant ce film, était aux commandes de la saga REC. Voici le synopsis du film. Une jeune étudiante madrilène, appelée Véronica, fait en 1991, pendant une éclipse solaire, avec deux amis, une séance de Ouija dans les sous-sols de son école. La séance de contact avec les esprits tourne mal et le verre explose sur la planche. Rapidement, la jeune fille est harcelée par des créatures surnaturelles qui menacent de s'en prendre à elle et à sa famille. La santé mentale de Véronica se dégrade. Elle devient peu à peu insomniaque et violente avec ses proches. Ce long métrage est disponible en DVD, mais aussi sur la plateforme Netflix. À voir aussi le film Ouija, sorti en 2014 et inspiré par le célèbre jeu de la planche Ouija. La réalisation est confiée à Styles White. L'histoire est cette fois-ci purement fictionnelle, avec un autre récit de séance de spiritisme qui se termine par un suicide, celle de la jeune adolescente Debbie Gallardi. Le film est un succès au box-office américain. Il rapporte plus de 50 millions de dollars. Deux ans plus tard, en 2016, sort un second volet intitulé « Ouija, les origines ». Il existe un petit livre en anglais de 126 pages qui traite de l'affaire Vallecas. Son titre, A Death in Vallecas, The True Story Behind the Hit Film Véronica. Son auteur, Ariane Asp, se pose la même question que nous et que vous. Estefania Gutiérrez-Lazaro a-t-elle été tuée par la maladie ou par une possession de type démoniaque? On termine par le livre disponible uniquement en espagnol, Mi Verdad, Expediente Vallecas. Ma vérité, l'affaire Vallecas. L'auteur n'est autre que Marianella Gutiérrez-Lazaro, la sœur d'Estefania.
Il est temps à présent de rendre un dernier hommage à Estefania Gutiérrez-Lazaro et de laisser son esprit et sa famille en paix. Nuit blanche, une histoire racontée par deux ombres rampantes, Anne Flamand et Michael Marquet. À la réalisation de cet épisode, un spécialiste des tourments sonores, Franck Pourpris. Nuit blanche est disponible sur votre application de podcast préférée, Deezer, Spotify et sur Apple Podcasts. Vous pouvez aussi nous écouter sur SoundCloud, sur l'application de Couleur 3, rubrique podcast, et sur rts.ch, rubrique radio podcast originaux. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine pleine lune pour le tout dernier épisode de Nuit blanche. Le 24 juin, pour notre ultime histoire, nous vous parlerons d'une créature mythique, le Chupacabra.
Vous en savez plus sur cette chose que n'importe qui. Alors dites-moi comment on l'arrête.
On ne peut pas l'arrêter.
Il doit bien y avoir un moyen, il a forcément un point faible.
Non.
Je suis sûre qu'il nous ment, il connaît absolument toute cette chose.
Aucune importance. Vous allez tous mourir. Et lui, il survivra.
À bientôt pour une nouvelle nuit blanche. Une nuit blanche à écouter de préférence, avec la lumière allumée, parce qu'on ne sait jamais.
Nuit blanche, couleur 3.